si les gens qui sont dans du café ont envie un jour de faire la cuisine pour en faire profiter les autres, ben, ils s'installent derrière. Et ensuite, on sert des repas. Il va y avoir des débats, il va y avoir de la musique, il va y avoir des soirées très diverses. Ce soir, on est dans le cadre d'une activité qui est proposée régulièrement par une des associations membres du café, la communauté qui gère, ensuite une vingtaine d'associations du quartier ou de l'arrondissement qui participent à la gestion de cet endroit. Donc c'est ATAC, le comité local ATAC Paris 12e. Et on est dans le cadre de, je ne sais pas comment on définit ça, un cycle d'histoire sociale, on appelle ça comme ça. En gros, pour être simple, on peut définir ça comme une université populaire où Jean-Marie Pernaud, qui est membre de notre comité local et qui est en même temps chercheur, et politologue, nous dévoile tous les secrets de l'histoire sociale française. C'est la cinquième séance, là, aujourd'hui. Cinquième séance, spéciale Commune de Paris, et puis je vais laisser Jean-Marie, et puis après Jean-Louis, vous présenter cette soirée. Voilà. Alors, la soirée débat, ça c'est les amis de la Commune de Paris qui organisent. Je pense que vous, il y a exposé, débat, quelques chansons. Après, on a un petit peu de trucs à manger, donc on vous demande 2 minutes de discipline, parce qu'on essaie de rentrer les chaises et d'organiser ça. Et on ouvre le bar, ce qui permet de terminer la soirée, pas trop tôt tard, parce que demain, il y a plein de gens qui bossent, mais en continuant les échanges et en discutant ensemble, ça peut être sympa. Voilà, je vous laisse la place.
Je croyais que tu allais nous apporter un communard, vin rouge cassis.
Un des modes de fonctionnement de cet endroit, c'est qu'on a une licence qui ne nous permet pas de vendre d'alcool en dehors d'air, pas, rassurez-vous.
Il y a en dehors d'air,
on demandera aux amis de la commune de nous fabriquer des communards, je sais pas ce qu'il faut d'ailleurs, mais pour le...
Cassis, vin rouge.
Je sais pas s'il y a du cassis. Ça, c'était un peu... Le rouge, ça va.
Comment c'est qu'on ne pouvait pas
d'alcool. On rend la licence, ne nous permet pas de le faire, et comme on a parfois des gens qui viennent voir ce qui se passe, faut faire attention. Voilà.
Bien, bon...
C'est parti, ça ?
Oui, c'est parti. Bonsoir à nouveau. Pour moi, ce soir, ça va être une soirée extrêmement reposante. Bertrand vous a dit que cette soirée s'inscrit dans un cycle. Donc, il y a ici des gens qui sont un petit peu habitués, ou en tout cas qui sont venus à quelques séances du cycle d'histoire sociale. Et puis, quand même, on a fait une séquence un peu particulière, un peu spéciale, au-delà, disons, des habitués, pour parler de la Commune de Paris, avec l'Association des Amis de la Commune. L'Association des Amis de la Commune, Jean-Louis en dira peut-être un mot, mais c'est une très ancienne association, puisqu'elle a été créée par les communards eux-mêmes, de retour d'exil. Après 1880, donc c'est une noble dame à laquelle on peut encourager l'adhésion, et Jean-Louis précisera. Et on est heureux d'accueillir aussi Jean-Louis Robert, qui est co-président de cette association, mais qui est aussi historien de son métier, qui est un spécialiste de l'histoire sociale, de l'histoire des représentations, et aussi de l'histoire culturelle, notamment des villes. Il a travaillé là-dessus autour des villes, de quelques grandes villes européennes, dont Paris, autour de la Première Guerre mondiale, qui était un de ses... grand thème de recherche historique à son début de carrière. Donc c'est non seulement une passion, la commune, mais c'est aussi son métier quelque part, et donc il va nous faire profiter de ses lumières. Je lui passe tout de suite la parole, et puis après on fait comme d'habitude, c'est-à-dire un exposé, puis après des questions.
Et après des chansons, parce que la commune se termine toujours en chansons. Bon, ben merci donc à... ATAC et à la Commune Libre d'Aligre d'accueillir les amis de la Commune. Très rapidement, 2 mots sur les amis de la Commune, puisque tu as déjà présenté notre association. Elle a été fondée comme une sorte de société mutuelle par les communards de retour, soit d'exil, mais pas seulement d'exil. Pour beaucoup d'entre eux, il s'agit de retour de prison, de bagne ou de déportation en Nouvelle-Calédonie. Donc, elle a été fondée en 1882 comme une sorte de mutuelle d'anciens de la commune, et elle s'est transformée progressivement en association d'anciens de la commune, puis d'amis de la commune, un peu comme les déportés au fur et à mesure de l'expiration, puis d'amis de la commune. Et elle existe encore, effectivement. C'est une des plus anciennes associations du mouvement social. Et c'est une vieille dame, donc, puisqu'elle a maintenant presque 150 ans, presque 140 ans, mais c'est une association qui se porte bien, puisqu'elle comporte encore 1500 adhérents. Donc c'est dire que ce n'est pas une petite association, c'est une association qui fait des choses importantes, notamment une grande exposition à l'Hôtel de Ville, qui a eu un très grand succès cette année, et qui espère, et on attend un peu votre aide, qui espère en faire une à la mairie du 12e arrondissement prochainement. Alors, venir, je veux dire quelques mots quand même sur ce lieu, parce que ça nous permet peut-être aussi de nous raccrocher un peu à l'histoire à l'histoire locale et aux questions de territoire et d'héritage. La rue d'Aligre même et la place d'Aligre, ce sont des lieux chargés d'histoire révolutionnaire. Je pense que certains d'entre vous le savent, je ne sais pas si d'autres ne le savent pas, mais c'est une vieille rue de Paris, et c'est une rue qui est marquée dans l'histoire révolutionnaire de Paris. En ce sens-là, c'est aussi quelque chose d'important. Le marché est très ancien, il remonte au XVIIIe siècle, et le 14 juillet 1789, c'est de là qu'une partie des révolutionnaires sont partis vers la Bastille. C'est un rassemblement de la place du marché qui a débouché sur la Bastille. C'est sur la place d'Aligre que le 30 septembre 1846 a démarré un grand mouvement d'émeute pour le pain, contre la vie chère. Ce grand mouvement de septembre 1846 marque le début de tout un mouvement qui débouchera sur 1848, la révolution de février 1848. En juin 1848, rue d'Aligre, il y avait un café qui s'appelait le Café des Peuples. Ce Café des Peuples était le siège du club socialiste démocratique du futur 12e arrondissement, parce qu'à l'époque, ce n'était pas encore le 12e arrondissement, complètement. Paris était dans les frontières pré-haussmanniennes. Mais c'était le siège d'un club démocratique du Faubourg Saint-Antoine, finalement, qui était là. Et ce club, outre qu'il a servi à l'insurrection de juin 1848, est rentré dans l'histoire. Il est évoqué par Victor Hugo dans Histoire d'un crime, puisque c'est dans ce club, qui était en fait un café, club-café, que se sont réunis les quelques députés qui, le lendemain du coup d'État de Napoléon le Petit, le 2 décembre 1851, ont tenté, une poignée de députés, de résister et de construire une barricade sur la rue du Faubourg Saint-Antoine, avec cet épisode célèbre du député Baudin qui sera tué ce 3 décembre 1851. Et ça, c'est dans ce Café des Peuples, c'est un joli nom, qui a eu en 1848 un Café des Peuples, rue d'Aligre, qui était le café des clubs socialistes. C'est aussi place d'Aligre, en sautant quelques années, nous allons arriver à la Commune, que s'est rassemblée la garde nationale du 12e arrondissement en mars 1871. C'était là qu'elle avait la 12e légion de la garde nationale, c'est-à-dire le regroupement des bataillons du 12e arrondissement, avait son siège. Et c'est là qu'on a rassemblé un certain nombre de canons. Après la capitulation, les Versaillais, qui étaient vraiment loin d'être des républicains, les Versaillais ont voulu donner des canons aux Prussiens à la suite de la capitulation, c'était prévu. Et les gardes nationaux ont été à la gare de Lyon et ils ont empêché le départ de ces canons et les ont rassemblés place d'Aligre, où pendant toute la commune se trouve le commandement de la 12e section de la garde nationale. Et enfin, sans doute la plus grande barricade du 12e arrondissement tombe ici, un peu plus loin. Elle permettait d'éviter de prendre la rue du Faubourg Saint-Antoine à revers. Et elle était donc dressée un peu plus loin pour protéger les barricades qu'il y avait sur la rue du Faubourg Saint-Antoine, parce que les troupes versaillaises venaient de la Seine et remontaient également par sur le côté, si on prend la rue du Faubourg de côté. Elle protégeait indirectement la rue du Faubourg Saint-Antoine. Et ici, le 26 mai 1871, tout près d'ici, c'est presque, on est le 27, la coïncidence, c'était l'avant-dernier jour de la Commune, puisque la dernière lutte a lieu le 27 mai dans le 20e arrondissement, mais le 12e arrondissement était encore tenu par les communards le 26 mai, a lieu le dernier combat de cette barricade qui est prise par les Versaillais, et qui fusille sur place une centaine d'insurgés. Voilà donc la rue d'Aligre, pour moi, elle est étroitement liée à la tradition révolutionnaire du peuple de Paris. Et ça prend sens dans la continuité aussi de l'histoire, que cette territorialisation Paris parle toujours par ses murs aussi. Donc, la Maison des Ensembles, puis ce café, c'est aussi tout l'héritage de ce mouvement qui part de 1789 et qui arrive à nos jours. Alors, la Commune de Paris, c'est quelque chose d'extrêmement vaste, hein, donc je ne peux pas entrer dans une heure. Je vous dis certains aspects en insistant sur la démocratie, parce que c'est un point clé de l'expérience de la Commune de Paris. Mais je vais dire quand même quelques mots sur les origines même de cette commune, ce qui permet parfois de comprendre pourquoi elle a réussi, ce qu'elle signifiait, et parfois aussi certaines de ses faiblesses, évidemment. Puis je dirais, développerai sur la démocratie en terminant un peu sur la mémoire, les enjeux de la mémoire. Donc les origines de la commune, évidemment, je crois que vous avez déjà des cours sur la première moitié du 19e siècle, les années 1850, l'insurrection de juin 48. Je crois que dans la commune, il y a une rencontre entre une tradition politique ancienne et un mouvement social qui est alors nouveau et qui est le mouvement ouvrier naissant. C'est la rencontre entre une tradition politique républicaine et un mouvement ouvrier, un mouvement social qui se développe, qui est le mouvement ouvrier dans les années 1860. Alors, je ne développerai pas longuement pour y revenir sur la tradition républicaine, patriotique aussi, et révolutionnaire du peuple de Paris. Hein, tradition qui remonte à la Révolution française, et même sans doute avant, qui associe... une pratique politique extrêmement intense, hein, tous les journaux, les réunions, des clubs, des sociétés, les arrières-salles des cafés, tout ça crée une sorte d'espace public et combatif extrêmement intense qui remonte à la période de la Révolution française, aux sections des sans-culottes et qui, malgré les difficultés, est sans cesse résurgente dans la capitale. Donc on a cette formidable pratique politique qui s'appuie sur un attachement à la République. Il faut rappeler que dans ces années 1860, pour bien comprendre aussi la Commune, en 1860, l'Empire est encore là. C'est le Second Empire. Donc la question de la République n'est pas encore tranchée. En 1870-1871, la question de la République n'est pas tranchée. Elle sera d'autant moins que la fameuse Assemblée de Versailles, élue avec l'occupation prussienne, a une large majorité de monarchistes. Il y a deux tiers à trois quarts de monarchistes dans l'Assemblée de Versailles, qui a nommé Thiers chef du gouvernement. Donc la question de la République... est encore au cœur des idées de ce peuple de Paris. Mais d'une république qui est déjà pensée comme populaire, sociale, voire égalitaire. Enfin, on ne peut pas séparer la république de l'importance de la patrie pour les communards. Même s'ils ont un sens de l'universel, et on y reviendra, il est évident que le sentiment de la patrie est très fort, que le refus de la capitulation de Versailles, puis du traité de Versailles, sont une dimension qui contribue à l'insurrection parisienne et au mécontentement du peuple parisien. Ce sentiment patriotique, il s'est manifesté aussi pendant le siège, le fameux siège par les Prussiens. Ça dure quand même plusieurs mois où les Prussiens entourent entièrement Paris, où Paris est sous le coup de la famine et où les Parisiens défendent leur ville. Alors, c'est à la fois la défense de leur ville, c'est très complexe, et c'est la défense de la capitale, dans un mélange assez complexe où on donne à Paris, puis la République, un sens de l'universel. Donc ce phénomène-là aussi présent, et ce sentiment patriotique, par exemple, il est éclatant lorsque les Prussiens rentrent dans Paris. Après la capitulation, ils ont le droit d'occuper la ville pendant 3 jours, mais les négociations sont très serrées et ils n'ont pas le droit de dépasser la Concorde. Donc ils occupent la partie occidentale de Paris. Alors il y a des images où on voit les Prussiens qui avancent et au milieu, à la fin des Champs-Élysées, il y a la ligne des gardes nationaux qui sont là et ils sont face à face avec les Prussiens. Et entre les deux, il y a les gavroches parisiens qui se moquent des soldats prussiens. Donc ça fait aussi partie de cette tradition parisienne du peuple de Paris. Alors cette tradition, elle s'exprime aussi dans une institution, dans plusieurs institutions, mais j'insisterai sur une surtout, qui est la Garde nationale. La Garde nationale, c'est une institution qui est née pendant la Révolution française, qui a connu des hauts et des bas, qui a été par moments réservée à la bourgeoisie, par moments elle s'est élargie, et la Garde nationale, elle avait normalement des fonctions d'ordre, évidemment, mais aussi de défense nationale. Elle pouvait être appelée à concourir à la défense nationale. Et en septembre 1870, la Garde nationale a été élargie à tous les citoyens qui le souhaitaient, le voulaient de fait. Même parfois, ils étaient un peu incités à y aller. On a, à partir de septembre 1870, un gonflement de cette Garde nationale. Sous le Second Empire, il y a une trentaine de bataillons de la Garde nationale. À partir de septembre 1870, donc sous le siège, et pendant la Commune qui suit, on a 250 bataillons de la Garde nationale. 250 bataillons de la Garde nationale, ça veut dire environ 300 000 hommes. Et donc, c'est le peuple en armes. C'est le peuple en armes. À côté de l'armée. La Garde nationale, ce n'est pas l'armée, ce ne sont pas les soldats, ce ne sont pas les conscrits même militaires qui sont dans l'armée, c'est le peuple en armes. Ces 300 000 hommes vont retrouver, finalement, cette Garde nationale, sous le siège, va retrouver ses pratiques démocratiques, elle va s'organiser, et progressivement, elle va élire ses officiers, elle va élire des délégués, et elle va se centraliser en créant un comité central de la Garde nationale qui finalement prend la direction de cette Garde nationale. Donc cette Garde nationale va progressivement échapper au contrôle des pouvoirs publics et devenir une sorte d'expression armée du peuple. Alors bon, bien sûr, l'histoire de la Garde nationale s'arrête après la Commune. Un des premiers décrets... Ils sont, tout homme de 20 à 50 ans participe à la Garde nationale. Alors, l'inscription n'y est pas entièrement contrainte, mais de fait, tout le monde, quasiment tout le monde s'y inscrit. Alors, avant 1870, c'est par exemple la Garde nationale, c'est seulement les bourgeois, il faut un certain niveau de revenu, par exemple, pour pouvoir s'inscrire à la Garde nationale. Là, c'est plus du tout le cas, et on a, disons... Presque tout le monde va s'inscrire à la Garde nationale parce que ne pas s'inscrire à la Garde nationale pendant le siège, ça serait dire qu'on est indifférent à la défense de Paris. Ça ne signifie pas que tout le monde participe dans tous les bataillons de façon égale, que parfois c'est difficile d'avoir tout le monde. Et évidemment, à la fin de la Commune, on sait bien que ce n'est pas 300 000 gardes nationaux qui participent à mai 1871, mais guère plus de 30 000 gardes nationaux qui sont au combat. Donc il y a eu une déperdition de force. Mais c'est quand même une masse qui représente le peuple de Paris. Donc voilà, vous avez ça, cette première force qui est ce peuple avec ses traditions républicaines, très avancées, très démocratiques, ses pratiques, cette organisation. Et à côté, vous avez le développement d'un mouvement ouvrier. Ce développement d'un mouvement ouvrier, lui, n'est pas propre à Paris, évidemment. Le développement du mouvement ouvrier, c'est dans tous les centres ouvriers que vous trouvez ce mouvement ouvrier. Il se manifeste dans les années 1860, c'est assez normal, puisque c'est sous le Second Empire que s'effectue vraiment en France la révolution industrielle. Avant 1850, on peut parler de prémices de la révolution industrielle. Oui, il y a quelques éléments, mais la révolution industrielle, c'est l'accélération brutale de la production industrielle, qui n'a jamais été très brutale en France, mais enfin, disons, une certaine accélération de la production industrielle, et les transformations liées à la révolution industrielle se passent sous le Second Empire. D'où l'apparition des ouvriers. Ça se manifeste par la multiplication, à partir des années 1860, des grèves dans les centre ouvrier. Une des plus célèbres, c'est la grève du Creusot, hein, qui voit l'intervention de l'armée. Grève qui d'ailleurs finissent par être autorisée par le Second Empire sous certaines conditions. C'est aussi la renaissance, parce que ça existait déjà avant, je pense que vous en avez déjà parlé, de toutes les sociétés de résistance ouvrière. Donc les mutuelles, les coopératives de consommation, les coopératives de production, qui s'étaient déjà développées dans les années 1830, 1840, mais qui se redéveloppent sous le Second Empire. Une des plus célèbres à Paris s'appelle La Marmite, elle est fondée par Varlin, qui sera un des leaders de la commune. C'est une coopérative de consommation qui joue un rôle très important pendant le siège, qui organise une grande partie de la population parisienne. Donc il y a toutes ces sociétés de résistance qui prennent des formes très diverses, coopératives, mutuelles, etc. Et en même temps, le développement vraiment de plus en plus clair, à partir des années 1860, des chambres syndicales ouvrières, c'est-à-dire des premiers syndicats ouvriers qui normalement sont interdits, parce que l'autorisation du syndicalisme, il faut attendre bien après la commune, Waldeck-Rousseau, pour voir autoriser les syndicats, la loi Waldeck-Rousseau, mais ils sont de fait plus ou moins tolérés, hein, par l'Empire, et ils, sans être des syndicats de masse, ça devient des organisations suffisamment importantes pour qu'à Paris, on puisse considérer qu'il y ait quelque chose comme 40 000 à 50 000 adhérents à l'ensemble de ces syndicats avant la guerre, hein, avant la guerre, parce qu'avec la guerre, évidemment, beaucoup de choses éclatent. Hein. Mais ça devient déjà une certaine force qui joue un certain rôle. Enfin, le troisième point de ce développement du mouvement ouvrier, c'est ce qu'on pourrait appeler l'apparition d'une certaine conscience ouvrière, assez complexe, mais qui se manifeste déjà d'un point de vue politique. Par exemple, on voit aux élections apparaître des candidatures ouvrières, on voit des programmes ouvriers, des programmes socialistes assez divers, hein, dans leur sens, mais on les voit apparaître, on voit une presse ouvrière, une presse qui se dit ouvrière, une presse des syndicats, etc., qui se développe dans la fin du Second Empire. Alors, à Paris même, puisqu'on est quand même, la commune, c'est un phénomène parisien, hein, évidemment, à Paris même, c'est plus complexe. C'est une ville ouvrière, bien sûr, massivement ouvrière, il ne faut pas l'oublier. La grande majorité de la population parisienne, 2 millions d'habitants, près de 2 millions d'habitants déjà, est ouvrière, dans un sens très large du mot. Elle l'est d'autant plus que Haussmann, vous le savez, en 1860, a élargi le territoire de Paris, créant toute la couronne des arrondissements qui va du 12e au 20e arrondissement. Hein. Jusqu'à 1860, Paris s'arrête à l'ancien mur des fermiers généraux, la nation, passe d'Italie, etc. etc. Et c'est Haussmann qui fait absorber entièrement à Paris, qui était quasiment la totalité de la banlieue dans les années 1860, hein, et même des zones non bâties. Hein, il ne faut pas s'imaginer que jusqu'aux fortifications de Thiers, tout était construit. Hein, loin de là, dans les arrondissements périphériques, vous avez encore, dans les années 1860 et sous la commune, des fermes, des terrains agricoles, etc. Hein, donc c'est pas s'imaginer que Paris est construit encore en entier. Donc c'est cette ville qui est quand même une ville extrêmement ouvrière et très populaire, a quand même une particularité par rapport à des nouveaux centres ouvriers, c'est que même s'il y a maintenant certaines entreprises importantes, la grande masse des industries parisiennes sont des industries de petites, voire de très petits établissements, avec une fracture ouvrier-artisan qui est souvent peu marquée. Elle est peu marquée, même parfois chez les communards. Pensons à Potier, par exemple. Potier, le futur élu du 2e arrondissement, et le futur auteur de l'Internationale, Eugène Potier, dessinateur sous étoffe, quand on lit son parcours, on voit qu'il est tantôt ouvrier, tantôt à son compte, tantôt petit patron, pendant la période du Second Empire. Hein. C'est un de ceux qui est peut-être le principal membre de la commune. Alors, ils ne sont pas très connus, les communards du 12e arrondissement. On va les faire connaître un peu. Mais le principal membre de la commune dans le 12e arrondissement, qui s'appelle Jean Fenouillas, était courtier en vin, puis marchand de vin. Donc voilà, ça vous donne une idée. Il a été fusillé à Satory le 22 janvier 1873 au cri de « Vive la République sociale, vive la commune ». Voilà, une rue Jean Fenouillas, ce ne serait peut-être pas inutile, puisque nous défendons la mémoire de la commune. Cette situation des ouvriers fait que, effectivement, à la fois, il y a des conditions pour ce que les historiens appellent le bloc jacobin. Le bloc jacobin, c'est cette alliance qui a existé sous la République entre les ouvriers, les classes les plus populaires, et la petite et moyenne bourgeoisie pour la République. Et donc, évidemment, cette situation-là est très favorable à Paris, mais aussi très favorable pour des idées que l'on appelle, qui sont celles de Proudhon, mais qui prennent beaucoup de subtilité, hein, le proudhonisme, ça a beaucoup de subtilité, c'est-à-dire des défenses de formules d'association de petits producteurs, de la même façon, donc qui est fortement présent dans le milieu ouvrier parisien. Puisqu'il y a beaucoup de petits producteurs, une sorte de socialisme à venir sera un socialisme associationniste de petits producteurs. Mais aussi, dans ce proudhonisme, on trouve les traces du fédéralisme qui est très important. Le fédéralisme, qui est d'autant plus important, la commune comme commune autonome, qu'il faut se rappeler que Paris n'a pas tous les droits politiques des autres communes, que Paris est sous la coupe du préfet de police, n'a pas de possibilité d'avoir un maire, que la revendication de la liberté de Paris est une revendication très forte et qu'on retrouve aussi dans la commune de Paris. Alors, je ne sais pas, maintenant le mot libre devient compliqué. Enfin, vous appelez commune libre aussi. Le dernier point qu'il faut évoquer dans ce mouvement ouvrier, c'est la création, en 1864, de la première internationale, ou Association internationale des travailleurs. C'est cette Association internationale des travailleurs qui est créée par Marx, jouer un rôle de stimuli dans ce mouvement parisien. Alors la première internationale à Paris, on pourrait en dire beaucoup de choses, parce qu'effectivement elle est très diverse. Hein. Dans la première internationale à Paris, il ne faut pas s'imaginer que c'est les idées de Marx qui sont là. Hein. Il y a toutes les idées possibles, il y a des blanquistes, des socialistes révolutionnaires, il y a les premiers anarchistes, il y a des proudhoniens, il y a des socialistes qu'on pourrait appeler de possibilistes, qui ne sont pas très révolutionnaires, il y a un peu de tout. Dans cette première internationale, mais progressivement, et d'autre part, cette première internationale, c'est intéressant du point de vue de la structure, elle est pensée comme... elle associe à la fois les syndicats. Donc dans l'internationale, vous avez des syndicats, qui d'ailleurs se regroupent en une fédération des syndicats parisiens, qui adhèrent à la première internationale, et les clubs locaux. Les sections locales de l'international, qui sont plus politiques, sont aussi adhérentes à l'international. C'est un mélange de sections politiques et des syndicats ouvriers qui se retrouvent dans cette international. Alors, en même temps, cette international, ces syndicalistes et ces sectionnaires, on pourrait les appeler comme ça, on voit bien qu'au fur et à mesure de l'action internationale, ils ont des positions... s'affirme de plus en plus, pas vraiment toujours clairement les positions de Marx, mais des positions où on voit le mot classe, par exemple, qui apparaît de plus en plus nettement, qui s'affirme, hein, l'opposition de la classe ouvrière et du patronat. On vient progressivement dans ces associations, dans ces syndicats, dans ces sections, il y a cette idéologie qui commence à se développer. Voilà, donc c'est cet ensemble-là qui est d'un côté ce peuple de Paris avec tout ce qu'il porte comme tradition politique républicaine, patriotique, révolutionnaire, assez diversifiée, et toutes ces pratiques, que ce soit Charlie, du Hugo, du tout ce que vous voulez, hein, et ce mouvement ouvrier qui se structure, s'organise, très divers en même temps dans ses idéologies, parce que ça va de Proudhon à Bakounine, de Bakounine à Marx, à Blanqui et à encore bien d'autres, qui font les deux piliers qui vont soutenir, se rencontrer et faire la force et peut-être par moment la faiblesse de la Commune. Alors l'histoire même de la Commune, je pense que vous la connaissez, donc je ne peux pas vous la raconter longuement, mais enfin, je vous rappelle que après la catastrophe de Sedan, le Second Empire est renversé le 4 septembre 1870. Comme je l'ai dit, un gouvernement provisoire se met en place, républicain. Ce gouvernement provisoire va avoir pour tâche d'assurer la défense nationale. Les Prussiens font le siège de Paris dans les conditions dramatiques que j'évoquais tout à l'heure, hein, c'est l'épisode célèbre des rats qu'on mange, etc., etc. Donc, et d'une véritable famine, hein, une véritable famine dramatique. Ce siège de Paris voit ce développement de l'organisation de la garde nationale, d'une structuration de ce peuple parisien armé, de fait, qui a de plus en plus de poids dans la capitale et qui pousse constamment le gouvernement de défense nationale à agir davantage, hein, à agir davantage d'un point de vue patriotique et d'un point de vue social. Ensuite, la capitulation, l'élection, enfin l'armistice, puis l'élection en février 1871 de cette assemblée introuvable, qui va siéger à Versailles et qui va multiplier les provocations contre les Parisiens. Hein, les Parisiens, eux, élus, tous les députés parisiens sont républicains, donc on voit déjà le contraste de cette ville extrêmement républicaine, hein, qui n'a élu que des députés parisiens, et cette assemblée qui est à majorité versaillaise. Et la tradition parisienne républicaine avait été déjà marquée dès 1869 au référendum impérial où Paris avait voté non à 75%. Ouais, elle avait été une des rares villes françaises à voter massivement non. Donc le conflit va s'accentuer. Thiers, qui a été nommé chef du gouvernement provisoire, va multiplier les provocations. Et aussi certaines maladresses, alors des maladresses ou des provocations, on peut en discuter, comme par exemple supprimer le moratoire des loyers, les Parisiens n'avaient pas payé leurs loyers, mais aussi les commerçants n'avaient pas payé leurs échéances, etc., leurs dettes, etc. Et là, l'Assemblée de Versailles, elle est rétablie, supprime le moratoire, c'est quand même une provocation pour les ouvriers, les locataires, les petits bourgeois, etc., hein. Donc c'est à la fois une façon d'affirmer sa volonté sociale, mais peut-être aussi une provocation. Mais ce qui renforce le mécontentement de la population parisienne, jusqu'à l'épisode célèbre du 18 mars, hein, où sur la butte Montmartre, la garde nationale avait entreposé ses canons, je dis bien ses canons, parce que c'était le peuple parisien qui les avait payés pendant le siège, au moins en partie, et l'armée vient récupérer ses canons, ça soulève l'émotion de la population de Montmartre, en particulier des femmes qui ont été les premières à tenter de paralyser les soldats pour les empêcher d'emmener ses canons. La responsable du comité de vigilance de Montmartre, une des responsables du comité de vigilance de Montmartre était Louise Michel, donc la population s'ameute, puis la garde nationale arrive, soldats finalement se débandent, et l'insurrection commence, la garde nationale généralise l'insurrection dans tout Paris. la différence entre, évidemment, 1968 et 1871, c'en est une, qui est, il y en aura bien d'autres, hein, bien sûr, c'est qu'évidemment, les communards prennent les mairies, prennent les ministères, prennent tous les lieux du pouvoir. En 1968, il n'y a aucune tentative, à aucun moment, de prise d'une mairie, d'un ministère, de l'Élysée, etc. C'est la différence fondamentale entre 68 et 71. Et, 71, c'est une révolution.
Pas de canon.
Il n'y a pas de canon. Ah ben c'est impossible. Je ne dis pas qu'ils aient raison de le faire, mais je veux dire, ça change évidemment la nature. Ça change évidemment la nature d'un mouvement quand il prend les lieux du pouvoir politique ou quand il ne les prend pas, qu'il ne puisse pas ou qu'il ne le veuille pas. Mais il y a eu d'autres occasions où même sans des occupations de ministères, etc., ont eu lieu. Ce n'est pas le cas en 68. Bon, enfin, on pourrait discuter de la comparaison. Alors voilà ce que je voulais dire sur ce départ. Ensuite, la commune, elle va s'installer et pendant un peu plus de 2 mois, à peine 2 mois, elle va produire ce qui est souvent trop méconnu, une œuvre, pas seulement des idées, etc., mais aussi une œuvre qui est d'une très grande actualité, qui est d'une très grande modernité, dont beaucoup des principes seront repris après par la République, et dont certains qui ne sont pas encore repris mériteraient largement de l'être et sont d'une extrême urgence. Je vais dire donc quelques mots de la démocratie. Un certain nombre de points. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, évidemment, les communards sont républicains. Donc, étant républicains, évidemment, ils attachent une grande importance, et faut jamais l'oublier, aux libertés. Hein. Que ce soit la déclaration de la Commune à Paris, la déclaration du manifeste des 20 arrondissements, tous les grands appels indiquent toujours qu'il s'agit d'assurer la liberté la plus complète de parler, d'écrire, de se réunir et de s'associer, la garantie absolue de la liberté individuelle, la liberté de conscience, la libre manifestation des idées, la libre défense des intérêts, le droit de réunion et de publicité. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Effectivement, la Commune mais toujours au premier point, parce que c'est une question actuelle, c'était une question actuelle, hein, tout à fait vivante, la question des libertés. Les journaux, la publication des journaux n'était nullement un droit acquis en 1871. Donc, c'est un premier point. Alors bien sûr, mais là j'ai pas le temps de développer parce que ce serait trop complexe. Évidemment, cette théorie, cette visée de la liberté rencontre des difficultés pendant la Commune. On pourra en discuter après, c'est pas simple, parce que bien sûr, au fur et à mesure que les communards voient que les Versaillais vont ne toléreront pas la Commune, ne chercheront aucun compromis vers la Commune et que l'on va donc vers une guerre civile de plus en plus dure. Quand ils voient la presse, Le Figaro ou d'autres, les traiter de racailles, de tous les noms, il est évident que la question de la liberté est posée de façon plus complexe. On pourra y revenir. Mais par exemple, la liberté de culte a toujours été assurée sous la Commune, hein. Même si les églises sont souvent occupées, par exemple, le soir. Hein. Alors c'est assez amusant, vous avez des églises hein, où donc dans la journée c'est le curé, à partir de 7h du soir, on met les drapeaux rouges et c'est le club révolutionnaire, les femmes montent sur la chaire et parlent, etc. Hein. Où il y a des églises qui sont partagées en deux aussi, alors... je ne sais pas, Saint-Pierre-de-Montrouge, je crois, il y a la moitié, il y a une tenture, on a mis une grande tenture, et une moitié, il y a le culte, et de l'autre côté, il y a le club. Hein, donc, la liberté de culte a quand même été préservée, même si, bien sûr, il y a une certaine anticléricalisme. Dans cette question, il y a aussi des questions que la commune s'est posées au niveau de son organisation territoriale par rapport à la nation dans son ensemble. Donc l'idée quand même de base de la commune, hein, c'est l'autonomie. Donc voilà le manifeste, hein, de la commune. La commune est la base de tout État politique, elle doit être autonome, c'est-à-dire se gouverner et s'administrer elle-même suivant son génie particulier. Et quand elle fait sa déclaration à la province, elle dit « L'autonomie absolue de la commune doit être étendue à toutes les localités. » Même l'Association internationale des travailleurs, hein, défend la même idée, hein. Par exemple, voilà ce qu'écrit le Comité fédéral des sections parisiennes de l'AIT. L'autonomie communale est la garantie de l'émancipation des travailleurs. Donc l'idée que la commune est autonome, donc elle n'a pas à recevoir, sauf pour ce qui concernerait une politique extérieure, étrangère, des intérêts nationaux au-delà, mais sur son organisation, elle n'a pas à recevoir et elle n'a pas à donner. Alors, évidemment, ça c'est quelque chose qu'on peut bien sûr discuter, est-ce qu'il était possible d'avoir une commune comme ça, au milieu d'autres, pas d'autres communes qui auraient été complètement différentes. C'est quelque chose qui évidemment mérite largement d'être discuté, sur la possibilité de faire des îlots socialistes comme ça dans l'ensemble de la France. D'autre part, il est certain que ça n'a pas toujours favorisé le combat de la commune, parce qu'au fond, elle a attendu que ça s'étende. Donc elle n'a pas cherché à une fois qu'elle a occupé tout Paris, elle n'a pas nécessairement cherché immédiatement à imposer ses idées au reste de la France, ce qui était peut-être en partie laissé à Versailles des moyens. Au niveau de la démocratie et de son organisation, ce qui est très fort dans la commune, c'est l'idée d'associer des formes de démocratie très exigeantes, très fortes. Alors, la commune ne nie pas la démocratie représentative. Malgré une certaine partie des communards qui, après le 18 mars, ont dit faut pas faire d'élection, faut établir tout de suite... Mais c'est vraiment un très petit nombre. Le comité central de la garde nationale, qui était en fait porté au pouvoir le 18 mars, a décidé d'organiser des élections dans les 20 arrondissements de Paris. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle la commune de Paris, finalement, c'est aussi et souvent l'assemblée élue. Quand on dit la commune décide, la commune décrète, c'est en fait l'assemblée élue par les Parisiens. Donc ces élections ont eu lieu une semaine après le 18 mars et elles ont été très suivies, hein, puisque quand même, malgré des situations, une situation très tendue, il y a eu plus de 200 000 votants, c'est quand même beaucoup, ce qui indique bien que la commune n'était pas un mouvement minoritaire. La commune est un mouvement, je ne sais pas... Certainement, tous les Parisiens ne partagent pas les idées de la commune, mais c'est loin, c'est pas un mouvement d'un petit groupe. Hein. C'est quand on voit les résultats des élections dans les quartiers populaires, on voit qu'ils ont été votés en masse pour la commune. Et on voit que dans les quartiers les plus bourgeois, parce que la commune avait laissé des listes bourgeoises modérées se présenter, ces listes modérées sont parfois élues d'ailleurs. Donc là, la commune n'est nullement opposé à la démocratie représentative, et même lorsqu'il y a eu des sièges vacants, par exemple dans le 12e arrondissement qui avait élu plusieurs, mais d'autres, plusieurs avaient été élus dans plusieurs arrondissements, dont Varlin dans le 12e, et finalement il avait choisi un autre arrondissement, il a fallu faire des élections partielles, les communards on les voit attachés à faire ces élections partielles encore à la fin du mois d'avril, hein, pour cette légitimité que donne la démocratie représentative. Mais à côté de cette idée, il y a terriblement fortement l'idée que ces représentants du peuple sont d'abord des mandataires du peuple. Ça, c'est l'idée essentielle. Ils ne sont des mandataires du peuple parce que pour eux, l'idée, c'est que le peuple ne peut jamais abdiquer sa souveraineté. Donc, ça c'est vraiment l'idée massive, le peuple n'abdique jamais et ne doit jamais abdiquer sa souveraineté. Il doit pouvoir l'exercer pleinement tout le temps. Il doit rester maître de lui-même et le manifester incessamment. Donc, les élus sont des mandataires. Et la commune dit clairement, hein, elle se prononce pour le mandat impératif et qui doit préciser et limiter le pouvoir et la mission des mandataires. Donc, ils sont... il est prévu toute une série de choses dont la principale, bien sûr, c'est la révocation permanente possible des élus, des 94 élus au Conseil de la Commune. Alors, c'est évidemment une conception de cette démocratie qui est extrêmement aiguë, qui suppose que le peuple intervienne, sur lequel j'y reviendrai un peu après. Autre point de la commune, c'est que ce gouvernement par le peuple doit être aussi le fait d'élus qui ont un nouveau profil. Que le mandat ne soit pas réservé aux seuls bourgeois ou élites. Ainsi, par exemple, le comité central de la garde nationale, lorsqu'il a il organise les élections, il dit ceci, il donne une sorte de conseil, il ne donne pas de nom, mais voilà ce qu'il écrit. Les hommes qui vous serviront le mieux, ce sont ceux que vous choisirez parmi vous, vivant de votre propre vie, souffrant des mêmes maux. Donc, une idée hein, de prendre les élus dans les rangs du peuple. Et bien sûr, hein, ce ne fut pas toujours réalisé. Les ouvriers n'étaient pas en proportion stricte de leur population, de la population parisienne. Mais aucune assemblée n'a eu une telle composante populaire que la Commune de Paris. C'est-à-dire que il y a des ouvriers, des employés, des petits commerçants, grossièrement tout l'arc social du peuple de Paris est présent parmi les 94 élus de la Commune de Paris. Donc ça, c'est aussi un point qui est une particularité de la Commune de Paris, quand on sait que dans notre Assemblée nationale actuelle, on doit avoir à peu près 1% d'ouvriers, on voit qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Un autre point essentiel de cette démocratie, de la représentation du peuple, où la commune me semble tout à fait d'actualité, il faut savoir que lors de la première réunion, donc ça devait être le 26 ou le 27 mars, les élus arrivent, là, comme tous les élus, hein, mais enfin de façon un peu différente, à l'hôtel de ville, hein, parce qu'il n'y avait pas eu trop de règles. Et il constate que parmi les élus, le 13e arrondissement a élu un ouvrier hongrois qui s'appelle Léo Frankel. Alors, grand débat, est-ce qu'il peut siéger? Et la première décision de la Commune de Paris, finalement, pendant qu'on appelle cette étape de validation des mandats de toute assemblée, c'est de décider que oui, les étrangers peuvent siéger à la commune de Paris. Vous voyez que en ces temps où on discute de la votation citoyenne, par la votation citoyenne, du droit encore des étrangers au vote, mais là il s'agit même de l'élection, hein, la commune de Paris en 1871 n'a demandé à personne sa carte d'identité, ni pour devenir élu à la commune de Paris, ni pour devenir commandant en chef de l'armée de la commune de Paris, qui était donnée à un Polonais, le général Dombrowski, Léo Frankel devenant le ministre du travail de la commune de Paris et prenant des mesures sociales essentielles. Donc, une démocratie originale, à ceci, il faut ajouter, on pourra y revenir, même si la commune n'a pas donné le droit de vote aux femmes, parce que la mentalité ouvrière ne s'y prêtait pas encore, et c'est un fait. Par contre, les femmes ont été extraordinairement actives pendant la commune. Je dirais que même elles ont été souvent le fer de lance de beaucoup d'actions de la commune. La principale organisation des femmes de la commune s'appelle l'Union des femmes pour l'Union des femmes pour etc. Cette union des femmes, elle joue un rôle tout à fait essentiel. Elle est organisée dans tous les arrondissements de Paris. Elle est dirigée par tout un ensemble de femmes, par plusieurs femmes, dont une russe, par exemple, qui s'appelle Elisabeth Mitrieff, mais aussi beaucoup d'autres. Une bretonne, pourquoi je les parle par leur territoire, enfin, c'est pas grave. Donc on a, cette union des femmes a joué un rôle tout à fait essentiel. Déjà, on l'a vu au moment de l'insurrection, on les retrouvera après au moment des barricades, mais surtout, elles ont joué un rôle essentiel au niveau de tout ce que la commune a pu faire au niveau de la politique sociale. L'Union des femmes a été un véritable mouvement social qui a influencé considérablement la commune de Paris. Et la commune de Paris peut d'ailleurs s'honorer aussi d'avoir pris un des premiers décrets d'égalité entre les hommes et les femmes, puisqu'elle a décrété l'égalité d'un salaire qui lui incombait, c'est-à-dire l'égalité du salaire des instituteurs et des institutrices de la Seine. Il y avait une différence de traitement entre les instituteurs et les institutrices de la Seine, et la commune de Paris a pris cette mesure d'égalité, qui est une des premières mesures d'égalité concrète entre les femmes et les hommes. Donc à côté de ces actions de la commune, hein, il faut bien voir, et cette union des femmes en est une des principales composantes, il y a toute une démocratie au quotidien qui est extrêmement exigeante pendant la commune de Paris. Il y a une véritable, un énorme développement du contrôle, des assemblées, des réunions, des clubs, de la presse, des dizaines de titres. Alors évidemment, ça peut paraître, on ne fera jamais la commune de Paris, on se retrouve juste rarement dans les circonstances, c'est que dans des circonstances particulières, comme 68 ou celle-ci, qu'évidemment on se réunit tous les jours, hein, les clubs se réunissent tous les jours, hein, quasiment tous les jours, il y a réunion du club, le prolétaire, réunion du club, etc. Et on se réunit tous les jours, on fait des assemblées quasiment tous les jours, pour suivre le déroulement, pour prendre des résolutions, pour envoyer des délégations à la commune, pour dire il faut faire ci, il faut faire ça. Et c'est ce mouvement est extrêmement important. Par exemple, pour bien montrer à quel point ce mouvement est très important, lorsque la commune a pris le décret, un des tout premiers décrets sociaux, qui est l'interdiction du travail de nuit des boulangers. C'est vraiment un des premiers décrets sociaux forts qui est pris. Les boulangers ont commencé, les ouvriers boulangers ont voulu commencer à vouloir remercier la commune. Alors tout de suite, levée de boucliers, vous n'avez pas à les remercier, ce sont nos mandataires, ils ne font qu'exécuter ce que nous leur demandons de faire. Hein? Voilà l'esprit de cette démocratie au quotidien, de cet engagement constant. Un dernier point de la démocratie communale concerne l'État. C'est une question qui est encore beaucoup discutée, mais ce qui est certain, c'est que la commune... Alors, bien sûr, il y a des choses assez amusantes hein, dans la commune, dans l'organisation même de la commune. La commune donc n'a pas de ministre parce que ça fait trop... Encore moins de président. Un président. Il y en a quand même aux amis de la commune, mais enfin bon, on est trois présidents, donc ça limite... Ça limite quand même notre autorité naturelle avec trois présidents. Donc, il n'y a pas de président à la commune, il n'y a pas de ministre, il n'y a que des commissions qui dirigent. Et notre association elle-même, d'ailleurs les amis de la commune, pour respecter cette tradition, est organisée en commissions qui sont ces organisations de base. Donc les commissions, il y a la commission du travail, la commission, une commission exécutive qui fait le quotidien, etc., une commission de l'instruction, etc. Alors ces commissions, pour bien montrer qu'on ne s'installe pas, elles sont élues pour un mois et elles peuvent être renouvelées tous les mois. Voilà, il s'agit bien d'un esprit constamment de le pouvoir n'est jamais délégué que sous une constante surveillance. Dans l'État même, évidemment, la commune prend un certain nombre de mesures qui concernent Paris. Hein, là, elle ne prétend pas les imposer à l'extérieur. Suppression de la préfecture de police. Merci à eux. Et remplacement de la préfecture de police par la garde nationale qui représente le peuple armé. Pour les hauts fonctionnaires, décision de la même façon que les hauts fonctionnaires sont sous la surveillance constante, comme les élus. Donc les élus, on vient de le voir, hein, ils sont mandataires et surveillés, mais toute l'administration est mise sous la surveillance. Hein. Donc les hauts fonctionnaires... Hein, sont susceptibles de contrôle et de révocation par le peuple. Il y a une certaine hésitation, alors là il y a des textes un peu différents pour savoir si c'est ou l'élection ou le concours qui doit prévaloir pour désigner ces hauts fonctionnaires. Un dernier point dans cette démocratie que je voudrais évoquer, pour ne pas être trop long, donc je vais sauter un certain nombre de choses. C'est la démocratie sociale. Une chose est la démocratie citoyenne, dans le quartier, dans la cité, mais bien sûr, peut-on exclure le travail et les travailleurs de la question de la démocratie ? C'est-à-dire, pourrait-on avoir d'un côté des citoyens très libres en situation de décider beaucoup de choses, et de l'autre, des travailleurs sans droit. C'est-à-dire qu'une démocratie sans une démocratie sociale aurait-on un sens? Moi, mon sentiment, c'est que ça n'a pas de sens. Évidemment, tout cela a des questions différentes hein, qui peuvent renvoyer au rapport de la propriété à la démocratie, hein, à des questions plus complexes. Toujours est-il que la commune n'a pas ignoré cette dimension qui avait déjà été un peu pensée par l'international. Et des tas de projets avaient été élaborés dans les années 1860, de propriété associative, etc. qu'est-ce que la commune a fait dans ce domaine? Évidemment, elle n'a pas eu beaucoup de temps. Ce n'est pas des choses qui peuvent se faire très très vite. Hein, et donc, on ne peut pas juger non plus la commune et son œuvre en termes de, d'un régime qui s'installe. Hein, évidemment, ça dure 2 mois. C'est court. Il y a les exigences de la lutte avec Versailles qui sont premières. Hein. Mais il y a une œuvre quand même dans ce domaine qui est quand même importante. Alors il y en a une qu'il faudrait noter parce que ça fait partie quand même de la démocratie sociale et ça a un lien avec la politique parce que c'était lié. C'est la création par la commune et la généralisation dans la mesure de ses moyens de l'école laïque gratuite et obligatoire. Et mixte. Donc ces écoles, c'est émouvant évidemment quand on tombe comme ça dans les archives devant des commandes par la maison commune du 12e arrondissement, parce que les mairies s'appelaient maison commune, par la maison commune du 12e arrondissement à une imprimerie de 80 cahiers, décrets, de l'encre pour distribution aux élèves. Et ça a été fait. Il ne faut pas oublier laïque et il ne faut pas oublier que la commune, un de ses premiers décrets, en avril 1871, l'article 1 de ce décret, c'est l'Église est séparée de l'État. Non pas que la commune a produit un des décrets fondateurs de la séparation de l'Église et de l'État, plus de 30 ans avant la Troisième République. Au principe même, d'ailleurs, dit la commune, de la liberté de conscience. C'est au principe même de la liberté de conscience que l'Église est séparée de l'État. Mais aussi pour soustraire les écoles à l'influence que les curés réactionnaires, le plus souvent, du Second Empire, y avaient exercé. Donc la visée de cette éducation intégrale, on pourrait y revenir, qui est un aspect tout à fait essentiel, dans la démocratie sociale, il y a la volonté de la commune, de la culture. La commune, c'est un grand mouvement de culture, de remise en marge des musées, de leur ouverture à un public le plus large possible. C'est un poids considérable donné aux artistes, leur organisation, notamment des artistes plasticiens, dans une fédération des artistes va jouer un rôle dans cette politique culturelle. C'est le développement de l'idée très tardive d'un théâtre populaire en nationalisant, entre guillemets, c'est le mot que Vaillant avait prononcé, mais en tout cas en confiant la gestion des théâtres, en socialisant ces artistes, et en socialisant ces théâtres et en confiant la gestion aux artistes. Donc toute une politique culturelle, toute une politique éducative qui compte également donc, dans cette idée d'une démocratie sociale. Au niveau économique et social, la commune prend un certain nombre de décisions. Bien sûr on a parfois reproché à un certain moment de l'histoire à la commune de ne pas avoir procédé à l'expropriation socialiste, mais bon, je ne pense pas que c'était ni plausible ni possible dans ces circonstances. Mais bon, le débat est bien sûr ouvert et on lui a beaucoup reproché de ne pas avoir fait ça, d'avoir laissé de l'argent en Versaillais, des moyens, etc. Bon, c'est un débat possible, Mais la commune prend quand même un certain nombre de mesures qui ont un sens. Une mesure toute bête, mais qui n'était pas sans intérêt. La commission du travail, donc présidée par l'ouvrier hongrois Léo Frankel, qui mériterait lui aussi une rue dans Paris, Léo Frankel, une de ses premières décisions, c'est de dire « Nous ne prendrons aucune décision dans le registre économique et social sans consultation des chambres syndicales ouvrières. » Ce qui est une petite révolution dans les pratiques où l'idée même que les ouvriers pourraient avoir des représentants qui discuteraient à ce niveau-là des propositions, c'est quelque chose qui, me semble, va déjà extrêmement loin. L'autre décision qui est importante, qui est prise par la commune, c'est que toute une série d'ateliers avaient été abandonnés par leur patron, évidemment, qui était parti soit pendant le siège, soit au début de la commune, et qui ne travaillait pas. Donc la commune décide que ces ateliers sont remis en activité par les ouvriers et fixe un délai de retour du patron au terme duquel son atelier sera exproprié. Donc on voit se développer des formes, entre guillemets, alors je ne sais pas si le mot est tout à fait exact, mais c'est quand même en partie ça, on voit des formes d'autogestion ouvrière apparaître dans un certain nombre d'ateliers limités, c'est qu'un petit nombre d'ateliers qui a vu cette expérience se développer, mais dans des ateliers très diversifiés quand même, d'habillement, notamment qui travaillaient pour la garde nationale, par exemple, fallait fournir des costumes aux gardes nationaux, ou de la métallurgie, où déjà les métallos étaient assez en pointe dans les mouvements sociaux. On voit des formes de remise en œuvre des ateliers par les ouvriers et de mise au travail sous leurs propres responsabilités. Donc, sans que la commune ait pu aller très loin dans ce domaine, elle ouvre aussi un chemin original vers des formes de démocratie sociale. Alors, je voudrais terminer cet exposé en donnant quelques mots sur la fin. La fin, évidemment, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est cette semaine sanglante. Cette semaine sanglante accompagnée d'un crime de masse, un des premiers crimes de masse dont on pourrait parler finalement dans l'histoire. Des abattoirs organisés, des exécutions sommaires, massives, sans procès, sans aucun droit. Vous savez comment ça s'est passé. On arrête les gens, que ce soit ceux qui se sont rendus après la prise d'une barricade ou ceux qui traînent dans le coin. Et puis, on les emmène dans les lieux d'interrogatoire à Mazas, au Luxembourg, dans une dizaine de lieux où la prévôté militaire est là. En quelques secondes, l'officier décide si on l'exécute ou non. Voilà, il n'y a pas de défense, il n'y a rien. Et on regarde les mains, s'il y a de la poudre, c'est que vous avez été un garde national, vous avez combattu à mort. Toute autre raison. Vous avez les cheveux blancs. Donc c'est que vous deviez être déjà. Vous avez déjà fait 1848. Vous recommencez en 1871 à mort. Épisode réel. Donc vous avez des véritables abattoirs où on peut estimer qu'autour de 20 000 Parisiens ont été abattus dans ces circonstances. Et les responsabilités, bien sûr, des chefs de l'armée sont considérables, mais aussi de tiers, hein, qui a sinon donné les consignes directement, mais a plus que laissé faire. Donc ça se place du 20 au 28 mai 1871. C'est ce qu'on appelle la semaine sanglante. À partir du moment où les Versaillais sont rentrés dans Paris, dès le premier jour où ils rentrent dans Paris, ont lieu les premières fusillades à Auteuil. Et au fur et à mesure de l'avancée des troupes, jusqu'au dernier massacre au Père-Lachaise, où plusieurs centaines de fusillés sont entassés au pied du mur des fédérés, où nous étions le 24 mai, lors de notre traditionnelle montée au mur des fédérés, remplissent les fosses communes de tous les cimetières, parisiens, mais sont aussi brûlés dans les catacombes ou les couloirs des fortifications, etc., etc. Donc c'est une véritable boucherie, il n'y a pas d'autre mot, hein. On comprend bien d'ailleurs cette boucherie lorsqu'on lit la façon dont la presse bourgeoise avait parlé et écrit des communards, hein, en les traitant systématiquement de voyous, d'assassins, de prostituées, et de tous les noms, de racailles, bien entendu. Il suffit de lire certaines... Voilà par exemple ce qu'écrit Le Figaro vers le 20 mai. Il reste à M. Thiers une tâche importante, celle de purger Paris. Jamais pareille occasion ne se présentera pour guérir Paris de la gangrène morale qui le ronge depuis 20 ans. Les Parisiens doivent subir les lois de la guerre, si terribles qu'elles puissent être. Aujourd'hui, la clémence serait de la démence. Qu'est-ce qu'un républicain? Vous voyez, communard, républicain. Une bête féroce. Allons, honnêtes gens. Un coup de main pour en finir avec la vermine démocratique et sociale. Alors voilà par exemple le témoignage de Nadar, le photographe qui avait observé les prisonniers passant regroupés devant Versailles. Voilà ce que dit Nadar. Des messieurs bien vêtus, des dames se heurtaient, se poussaient pour injurier de plus près les prisonniers. Et au paroxysme de la folie sanguinaire, unanime, sans une protestation, ils criaient, hurlaient ces cris horribles que j'entends encore. « À mort, à mort !»« Non, tout de suite, ici, ne les emmenez pas !» Un monsieur était parvenu au centre de l'escorte d'où il frappait d'estoc et de taille les prisonniers à coups de canne. Une femme criait « Arrachez-leur les ongles !» Donc on pourrait multiplier hein, les déclarations hein, qui poussent à cette... ce qu'on peut appeler effectivement un crime de masse. Ce crime de masse est suivi de 38 000 arrestations, hein, donc, l'importance de la répression, d'exécutions ensuite des principaux chefs qui ont pu être arrêtés, de la déportation de certains sur les pontons, dans les bateaux, sur la côte, puis pour d'autres dans les bagnes, en Guyane, pour d'autres c'est la déportation, plusieurs formes de déportation, il y a la déportation vraiment enfermée, donc on n'a pas le droit de bouger, il y a la déportation simple, on a un périmètre plus large dans l'île des Pins, en Nouvelle-Calédonie, et donc le drame se poursuit pendant encore des années pour ces communards. Voilà. Je vais arrêter là. Il est clair que la lutte pour la mémoire de la commune n'est pas terminée. Si la construction de l'image de la commune celle que les Versaillais ont construite en 1871, de racailles, de déclassés pour les intellectuels qui étaient communards, pour les artistes qui étaient communards, bien sûr, de voleurs, d'assassins, de monstres, etc., d'incendiaires aussi, on pourrait y revenir, de traîtres. Cette image est maintenant quand même, a été combattue et moins présente. Nous nous heurtons pour l'image de la Commune beaucoup plus à l'occultation systématique de cet événement dans un grand nombre de lieux, sa présence très minime dans les programmes scolaires et à l'école ou à l'université, sa rareté dans les lieux de mémoire pour lesquels une lutte est encore à développer. C'est le sens de l'action des Amis de la Commune de Paris. Merci.